Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 31 janvier 90.
La même humeur. toujours avec un soleil merveilleux. La tendance des stoïciens, parce que c'est les stoïciens que les pères de l'Église ont reçus en premier lieu. Alors c'était un peu modéré, c'était pas un épictète parfait, mais c'était quand même un Socrate parfait. Et la croix était vue dans la lumière de l'ainsi que comprend. Il faut passer par là. On ne bronche pas. Et saint Thomas lui dit non. Il y avait des passions dans le Christ. Les passions ne sont pas mauvaises. Les passions, ça fait partie de l'homme. C'est nécessaire, les passions. Mais ce sont des passions qui sont entièrement sous la mouvance de l'amour divin, de l'amour volontaire et entièrement ordonné au vécu de cet amour dans la sensibilité, dans le côté affectif. Alors c'est pour ça qu'il dit pro-passion. C'est pas des passions livrées à elles-mêmes. Vous voyez, c'est juste l'inverse de Freud. Libération des passions. Mais libération des passions, c'est tuer les passions. Elles sont plus humaines. Elles deviennent animales. C'est ça Freud, libérer les passions. En libérer des passions, ce n'est pas passionnant. Parce que c'est retourner à l'animal. Il faut au contraire comprendre cette vision du théologien de voir que les passions, ce terrain psychique qui est en nous, l'imaginaire lié aux passions, c'est le psychisme. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le psychisme, eh bien le psychisme, c'est l'imaginaire lié aux passions. C'est l'imaginaire qui monte toutes les vagues, les tempêtes intérieures. Et Jésus dort sur un petit coussin. Qu'est-ce qu'il fait quand même, je suis dans les passions, ça ne m'arrive pas, la barque, il dort sur un petit coussin, il est en dehors, et cependant il doit être dedans. Les apôtres le rappellent, le réveillent, homme de peu de foi, vous manquez de foi. C'est très très extraordinaire, c'est très beau du reste, parce que c'est il faut toujours que nous voyons les passions, se rappeler ça. Nous avons des tempêtes terribles quelquefois. Et au noviciat, les tempêtes sont effrayantes parce qu'on a endigué, vous comprenez. Il y a une clôture qui, avec tout est endigué, tout est fermé, la clôture. Vous ne pouvez pas passer. Alors les tempêtes sont très fortes. Vous n'avez jamais vécu autant des passions qu'au noviciat. Parce qu'avant, ça passait. Ne faisait pas attention. Il y avait le cinéma le soir qui apaisait tout. Il y avait un bon repas avec les amis. Alors, in vino veritas, hein, c'est ça. Ça apaise tout. Tandis qu'au contraire, ah non, plus rien. Alors, les passions. Et on doit arriver à être lucide. Une lucidité à travers le concupiscible et l'irascible. Et saint Thomas nous aide parce qu'il fait l'analyse. Alors l'analyse des passions, c'est comprendre que les passions, c'est un appétit naturel. Mais ce n'est pas l'appétit naturel fondamental de l'instinct. C'est un appétit qui s'éveille grâce à la connaissance sensible. Et la connaissance sensible n'est parfaitement immanente que dans l'imaginaire. L'imaginaire joue un très, très, très grand rôle dans l'éveil des passions. Alors, on essaie d'analyser en découvrant les causes. La cause propre de la passion, c'est le bien sensible. Vous entendez la tempête, hein? C'est ça. Ça, c'est l'imaginaire. C'est des passions, ça. Des tourbillons, ça. Et ça va dans tous les sens. saisissant le bien sensible. Or, le bien sensible, comme bien sensible, est ou présent ou absent. Psychologiquement, on comprend très très bien. Vous avez un désir de saisir ce bien sensible. Le bien sensible demande d'être possédé, puisqu'il est sensible. Il demande d'être possédé. Pour être possédé, il faut qu'il soit présent. S'il est absent, vous ne pouvez que le désirer. Voyez ? Le désir, c'est combler le creux de l'absence. L'absence fait un creux, psychologiquement parlant, intentionnellement parlant. Parce que les passions, c'est l'intentionnel. C'est l'intentionnel, c'est-à-dire, ça fait beaucoup de bruit, ça tourne dans tous les sens. Mais c'est pas le réel substantiel, c'est ça l'intentionnel. C'est un réel vécu, l'intentionnel. Mais vécu au-dedans de nous-mêmes. Vécu pour l'intentionnalité des passions, vécu imaginativement. Alors, l'absence, c'est un vide. C'est un vide. Qu'est-ce qui va remplir ce vide ? Le désir. Le désir tend vers le bien sensible, absent. Et le bien sensible, présent et possédé. dans un devenir, il y a toujours l'aspect dialectique. Alors vous pouvez faire la dialectique. Amour, désir, jouissance. Le désir n'est pas la jouissance. Les deux opposés et la synthèse. Vous mettez en opposition désir et jouissance. Rien ne s'oppose plus. Rien ne s'oppose plus à la jouissance que le désir. On est affamé. Le désir extrême, c'est celui qui est affamé. Et il en crève. Parce qu'il est affamé. Et puis le repu. Alors la jouissance. Et la synthèse, l'amour. Mais en réalité, c'est pas juste. Hein. C'est pas juste, ça c'est dialectiquement. C'est pas juste du tout. L'amour est source, pas synthèse. L'amour est simple, pas synthèse. Rien n'est plus simple que l'amour. C'est pour ça que c'est si difficile à saisir, parce que c'est simple. Tandis que le désir est toujours complexe. Vous voyez, toutes les modalités de l'absence, plus ou moins, on est plus ou moins absent, on est plus ou moins présent. Donc le désir et la jouissance, c'est jamais simple. Jamais, jamais. Toute une série de... Tandis que l'amour est simple, l'élément. Et c'est ça la grandeur de cette analyse de saint Thomas. C'est qu'il comprend et il cherche ce qui commande le reste. Oui. Cherche. Qu'est-ce qu'il y a de premier? Qu'est-ce qui est source? C'est bien la recherche inductive. Enfin, c'est deux opposés. Alors là, vous voyez bien la différence de l'analyse analogique, de la démarche dialectique. La démarche dialectique est à l'intérieur du vécu. Je prends les deux extrêmes du vécu et j'en fais la synthèse. Dans l'analyse, au contraire, au point de vue analogique, je saisis le vécu du désir, le vécu de la jouissance. Et je me dis, qu'est-ce qui commande le désir et la jouissance? Et il y a un élément commun, le bien sensé. capacité d'éveiller en moi la passion. Alors voyons cette distinction très importante entre l'amour est-il identique à la dilection ? Nous avons ce texte de Denis. Il a paru à certains saints que le nom d'amour était plus divin que celui de dilection. Quibus sanctorum visum est divinius esse nomen amoris, quam nomen dilection. Vous dites Dieu est amour, vous ne dites pas que Dieu est dilection. C'est un petit Denis. Pourquoi saint Jean a-t-il dit amour? Alors, il existe quatre noms relatifs, en quelque manière, à la même chose. Amour, dilection, charité, amitié. Différentes damen inoc. Donc, on va voir la différence entre amor, dilectio, caritas, amicitia. Alors, vous pouvez regarder ça en grec. Hein. Ce sera intéressant. Tous ces aspects-là, l'acte signifié par ces trois derniers termes ne l'est pourtant pas selon la même acception. L'amour est plus commun. Toute dilection ou charité est amour. Mais l'inverse n'est pas vrai. Car dilection, comme le mot l'indique, ajoute à l'amour l'idée d'un choix antécédent. C'est l'amour choisi. Dilection. Ce qui fait que la dilection ne se trouve pas dans le concupiscible, mais seulement dans la volonté et dans la seule nature raisonnable. Enfin, la charité ajoute à l'amour une certaine perfection, car ce qu'on aime de charité est estimé d'un grand prix, comme l'indique le nom même de charité, caritas, l'agapé. Donc voyez ce que fait saint Thomas, hein, c'est très curieux et c'est intéressant à voir ça. Donc amour, c'est le mot commun, ce qui est vrai du reste. Amour reste le mot commun, sauf dans le langage français d'aujourd'hui, où amour de plus en plus est attiré par le point de vue passionnel et même sexuel. Dans un certain milieu, les gens, quand ils disent amour, ils aiment. Alors que pas du tout. Dans le langage profond, l'amour, c'est commun. Alors il y a des degrés dans l'amour. Il y a des degrés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un amour instinctif. Il y a un amour passionnel. Il y a un amour spirituel. Il y a un amour divin. Et entre eux, l'amour passionnel, l'amour spirituel, vous pouvez avoir un amour romantique. Je veux me marier avec Miss Idéal. Un amour romantique. Vous chercherez indéfiniment, vous ne la trouverez jamais. Alors, un amour romantique. Au clair de lune. Il y a des choses qui ne s'éveillent qu'au clair de lune. L'amour romantique. Puis l'amour passionnel. Voyez, le mot amour est commun. Et c'est bien ce que dit saint Thomas. L'amour, c'est commun. Dilectio, ah, c'est l'amour qui implique un choix. Tout amour spirituel implique un choix. Donc c'est l'amour spirituel. C'est l'amour volontaire. Je te choisis. Je t'aime, je te choisis. L'amour, dilectio. Et c'est vrai ça, la dilection c'est bien ça. Et l'amour agapé, l'amour divin, la charité, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, le choix de Jésus sur moi. Il m'a choisi, il m'aime. Et je réponds à cet amour. Oui, je crois qu'on retrouve, tandis que amour passion, ah c'est l'amour passion, amour passionnel. Qui n'implique pas de choix. Il y a une petite étincelle qui a brûlé. Alors quelquefois c'est un feu de paille. L'amour passionnel est quelquefois un feu de paille. Ça dure 3 mois, tant qu'il y a de la paille. Et quand il n'y a plus de paille, ça tombe. L'amour passionnel brûle la paille. L'amour de dilection, c'est un choix, c'est la volonté, c'est infini. Il n'y a pas de limite. Et l'amour divin, charité. Vous voyez, c'est très curieux que ce langage de saint Thomas ici rejoint bien notre langage. C'est pas étonnant. Notre langue française est liée au latin et au grec. Et la culture. Mais il y a une tendance dans certains milieux de l'amour instinctif égale l'amour sexuel. Et l'amour tout court, c'est ça. Je me souviens, il y a quelques années, était paru un livre, Amour et Amitié. Et on opposait les deux. Alors qu'il n'y a pas d'opposition si on comprend la notion analogique de l'amour, la ratio amoris. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et n'est pas l'amour sexuel, n'est pas l'instinct. Et il n'est pas non plus la dilection, l'amour spirituel. Il n'est pas non plus la charité. Donc je crois que pour nous, dans le monde d'aujourd'hui, il faut lutter. Parce que les mots sont porteurs de culture. Il faut lutter contre cette annexion terrible, cette réduction de dire l'amour, c'est l'amour sexuel. C'est aussi l'amour de joie. Et c'est un véritable amour. C'est même plus amour que l'amour instinctif, qui est moins amour. C'est l'analogie inférieure, ça. Le dernier fondamental. C'est vrai, l'amour instinctif. Mais dans l'amour instinctif, il y a aussi l'amour de la nourriture. J'ai un amour de la nourriture qui est un amour instinctif. Instinctif de la nourriture, l'amour sexuel, l'amour passionnel, l'amour de joie et l'amour divin, et entre deux, l'amour romantique. L'agapé est lié à...
Au festin.
Au festin.
À l'instinct.
Au festin. Au festin.
Au festin. À l'agapé. Oui, mais c'est parce que... Fais attention, au festin. L'agapé divin. Hein, parce que là, je suis dans l'ordre surnaturel. Aucun philosophe n'a parlé de l'agapé. Donc, c'est le théologien qui parle de l'agapé. C'est la révélation. La révélation parle de l'agapé dans ses diverses manifestations. L'agapé divin implique la joie qui se manifeste dans le festin. L'agapé implique le désir. L'agapé implique toutes les notes de l'amour. Parce que c'est divin, et donc c'est un amour éminent. C'est un amour qui transcende tout le reste. Vous voyez, je le mets moi comme ça, c'est faux. Parce qu'en réalité, il faut le séparer. Il est transcendant. Et donc, il va impliquer tout. Et alors, pour manifester cet amour, je le manifeste de telle ou telle manière. C'est dans la jouissance. C'est dans la jouissance que l'amour peut s'épanouir pleinement. Même au niveau passionnel. C'est dans la jouissance. Et cette jouissance s'exprime divinement dans le festin, dans le repas. Mais la sagesse invite. C'est pour ça, c'est la manifestation. C'est pas ce qu'est l'amour. C'est la manifestation. Constamment, hein, n'oubliez jamais que la révélation ne se fait jamais au niveau de la ratio. Jamais. Elle se fait toujours au niveau du vécu. Donc au niveau des manifestations, au niveau des propriétés. Toute l'écriture est au niveau des propriétés. Parce que c'est un langage poétique. Le langage poétique est au niveau des propriétés. C'est pour ça que le théologien devra distinguer dans l'écriture ce qui est analogie métaphorique et ce qui est analogie propre. prédilection selon qu'il se trouve dans la volonté. En ce sens, il décide la même réalité. Alors, je vois tout de suite la réponse. L'objet de l'amour est plus commun que celui de la dilection, car l'amour s'étend à plus de choses. Donc, la ratio amoris, l'amour comme tel, implique la dilection, implique l'amour passionnel, implique l'amour instinctif. À travers ces diverses modalités de l'amour, je dois saisir la ratio amoris. La charité ajoute à l'amour une certaine perfection c'est l'organe. Amour et dilectio signifie à la manière d'un acte ou d'une passion. Elle peut se prendre de deux façons. Habitus et acte. C'est habitus et acte, c'est pas passion. Faisons attention. Hein. Voyez. Saint Thomas commence par distinguer l'amitié comme un habitus. Et puis la dilection et l'amour comme un acte. Et dit la charité, elle est habitus et acte. C'est pas passion une chose, hein. Faites attention. J'espère que vous voyez bien. Bien pas du tout. Qu'est-ce qu'il voit? Ce que je viens de dire. Mais j'avais l'impression que vous ne réagissiez pas et que ça restait l'inertie la plus complète. Sure.